Allez, il est temps de parler bande dessinée.
Ah oui, ouais, mais il y a une voix qui nous arrive d'outre-tombe, là.
Mon trait est vulgaire, mais vulgaire au sens très large du terme. C'est-à-dire que, bon, quand un type fait une grimace, il la fait vraiment. Ou bien les mains, je dessine les ongles et toutes les phalanges, phalangines, phalangettes. Alors que, avant, il était de bon ton de dessiner une main plus élégante, de supprimer toutes ces rides et tout. Justement, ces rides qui, peut-être, ajoutent une notion de vulgarité, mais qui, en même temps, donnent de l'expression.
Tu dois observer beaucoup les,
oh,
les gens.
C'est fou ce que je peux observer.
Tu fais souvent beaucoup de bandes dessinées sur toi. Pourquoi ?
J'aime bien raconter mes salades, puis peut-être que je suis un peu mégalomane.
Alors, est-ce que vous l'avez reconnu, ami invité ?
Non.
Pourtant, c'est facile, il est lié complètement à l'actualité.
C'était Gottlieb, non ?
Ouais, c'était Gottlieb.
Mais il n'y avait pas ce côté un peu nasillard dans sa voix, ce qui, du coup, je me suis dit, on dirait Gottlieb,
mais il parlait un peu plus comme ça.
Ouais, ouais, c'est vrai. Bon, c'était extrait d'une interview de 1973. Voilà, c'était un petit clin d'œil pour commencer ce magazine bande dessinée, puisqu'il est mort, comme vous le savez, le 4 décembre dernier.
Ouais.
Voilà, et puis Gottlieb, c'est quand même une date, je ne sais pas vous, moi, personnellement, Gottlieb, quand même, ça a été assez important dans ma vie, notamment le passage de la BD, on va dire, enfant à la BD adulte. Mm-hmm. Est-ce que c'est votre cas aussi un peu ?
Bah, carrément, oui, totalement.
Ouais.
Voilà. Donc, salut Marcel. Et alors, écoutez, nos invités, ils sont trois dans le studio. Ils ont plein de choses en commun. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sentent bon le sable chaud.
Pas aujourd'hui même.
aujourd'hui, ça sent plutôt la pluie mouillée, le chien mouillé, ouais. Mais ils habitent Toulouse, ils sont auteurs de bandes dessinées, tous les trois. Ils sont membres du collectif de micro-édition Les Machines. Et tous les trois, vous avez sorti un album en 2016 aux mêmes éditions, les éditions FLBLB.
Flubbelub.
Flubbelub, oui. Vous le dites bien. Tu t'es entraîné ?
Oui, très longtemps, pendant
c'est,
des années.
C'est dans le contrat, il faut qu'on
donc,
sache bien le dire.
Ouais, c'est. Vous avez quoi ? Vous avez des. Il y a un coaching pour,
ouais,
pour arriver.
C'est un, ouais.
Flubbelub. Flubbelub. Eh, j'ai
un orthodontiste spécial.
Alors donc voilà, donc on va parler évidemment de ces trois albums, on va parler des machines donc, mais d'abord je commence par vous présenter Léo.
C'est moi.
Léo Louis Honoré.
Exact. Mon prénom c'est Léo.
Léo, voilà, oui c'est vrai que c'est bien de le préciser, c'est pas Léo Louis.
Non, il y a plein de gens qui se trompent.
Daniel Selig.
Daniel Selig, ouais.
Enchanté. Et Alexandre Girodi.
Salut.
Girodi d'ailleurs, c'est pas J.
Girodi. Bébé, c'est comme Flubbelub, personne sait le prononcer.
Pourtant ça paraît plus simple.
Son prénom c'est Alex G.
Bienvenue sur Canal Sud. Alors ouais, on va commencer par parler de ce projet effectivement de micro-édition, Les Machines. Je sais pas, peut-être déjà présenter un peu. Alors qu'est-ce que c'est de la micro-édition déjà peut-être ?
La micro-édition, c'est le fait de faire de l'édition, mais à un niveau microscopique, donc très petit. Donc c'est souvent, on rapproche ça de l'auto-édition, c'est-à-dire de faire de l'édition soi-même. Et du coup, c'est un nom sympa pour dire le fanzine, quoi.
Ouais, c'est ça.
Voilà, c'est des petits tirages et c'est... Mais c'était aussi un choix, pas parce qu'on n'avait pas de sous pour imprimer ailleurs. C'était qu'aussi faire des petits tirages, ça permet de ne pas gâcher de papier parce que quand on imprime professionnellement, entre guillemets, on est obligé de faire des énormes tirages pour que ça coûte moins cher et ça fait beaucoup de pertes aussi des fois. Et nous, ça ne nous intéressait pas. On voulait plus faire plus de livres différents, mais dans des petites quantités.
Ouais, donc c'est ça, vous avez acheté une imprimante laser.
C'est ça, ouais, on fait tout numériquement et du coup, ça coûte.
Dans votre garage
Dans notre garage. On a acheté un massico, une agrafeuse et puis on s'y est mis, quoi.
D'accord, et du coup l'idée, ouais, c'est ça, c'est que vous faites du coup du tirage vraiment selon les besoins.
C'est ça.
Donc l'idée, c'est pas gaspillage, mais c'est aussi pas trop de dépenses.
Exactement.
Ça permet un modèle économique.
Ça coupe tous les intermédiaires. On n'a pas de frais de distribution ou de stockage parce que on en imprime entre 30 et 100 de chaque bouquin et du coup on peut les mettre chez nous. Et au pire dans les matelas, quoi. Et oui.
Et s'il marche, l'avantage, c'est qu'on en fait 30 ou 100, c'est, on voit après s'il marche, on aura imprimé un peu plus, on voit.
Ça permet une grande souplesse, ouais.
Voilà, et surtout de faire des livres qui coûtent absolument rien, vraiment pas très cher.
Et aussi, ça permet de faire des livres qui seraient compliqués à faire, par un éditeur industriel, des trucs qui se déplient dans tous les sens ou avec des formats un peu marrants. Enfin, ouais, que nous, on peut le faire à la main, on peut le faire, quoi.
Ouais, d'expérimenter, voilà. Mais ouais, j'imagine aussi que ça permet, parce que je sais pas à quel rythme vous produisez vos bandes dessinées ou quoi, mais j'imagine aussi que bah, quand on fait une bande dessinée pour un éditeur, même si ça reste un éditeur indépendant, hein, comme Feublebleu.
Pas mal.
Mais il y a quand même, bon, bah, il y a des délais, il y a un travail d'éditeur à faire, faut que ça parte à l'impression, les sorties sont prévues pour plus tard, alors que là, vous avez peut-être une réactivité aussi, c'est-à-dire qu'on produit quelque chose, puis tiens, tiens, ça c'est sur le moment et on peut le sortir assez facilement, ça peut être sur la prochaine table de presse ou.
Oui, oui, complètement. Bah, ça permet une souplesse au niveau de l'emploi du temps, c'est sûr. Bon, bah, du coup, on se retrouve à tout faire les deux semaines avant le festival d'Angoulême, hein, faut pas se mentir. Mais...
ça tombe bien, c'est dans deux semaines. Donc là, en voilà. Sortant de la radio, vous allez
c'est
pouvoir...
vrai que si, par exemple, on a une commande pour un bouquin et qu'on n'en a plus, on peut descendre dans le garage, le faire l'après, mais l'envoyer le lendemain. Et voilà, quoi. C'est...
Ok. Ouais. Et économiquement, comment vous avez fait là du coup? Parce que du coup, effectivement, c'est des dépenses minimales, mais enfin, vous avez quand même acheté, j'imagine, une imprimante laser du coup A3, quelque chose en couleur.
Ouais,
chose...
ouais, en fait, c'était quand on était en quatrième année au Beaux-Arts à Angoulême, parce que c'est là qu'on s'est tous rencontrés, tous les gens des machines, parce qu'on ne sait pas d'avant Angoulême. Et avec les gens de notre promo et celles d'en dessous aussi, plus après d'autres personnes qui étaient aussi à l'école qui sont rajoutées petit à petit, on s'est mis à une dizaine et on s'est dit. Parce qu'on voyait que être publié chez un éditeur direct quand on n'a pas de nom vraiment, c'est pas évident et que souvent ils répondent pas ou qu'ils répondent pas de manière positive. Et on s'est dit, bon, c'est peut-être ça va un peu risquer de nous casser un peu si on bosse sur un projet et qu'on attend qu'il soit édité. Pourquoi pas sortir nos trucs et comme ça on va produire, on est sûr d'avancer comme ça et puis on verra après, on va faire notre assaut et. Et comme ça, on va être sûr de produire beaucoup et ensemble surtout, parce que plutôt que d'être tout seul chez nous à bosser sur un projet qui peut-être verra jamais le jour. Donc là, on était vraiment ensemble, il y avait une dynamique collective qui était vraiment chouette à 10. Et en fait, ça nous a permis justement, ça a plutôt bien marché, parce que c'est après comme ça qu'on a pu rencontrer des maisons d'édition comme Flubble Up ou autre, en faisant beaucoup de festivals justement, et pas en bossant chez nous tout seul. En déprimant. Et... Ouais,
c'est vrai que le travail de dessinateur et d'auteur de bande dessinée, ça apparaît comme un travail assez solitaire.
Ouais, très solitaire, ouais. Nous, c'était vraiment un moyen de rester ensemble, de serrer un peu les coudes après les Beaux-Arts, au lieu de se fractionner un peu et de se retrouver un peu dans plein de villes différentes et tout. Ouais.
Alors quand même, on peut se poser, par rapport à ce que tu disais Léo, là, on peut se poser quand même une question, c'est qu'il y a plein d'auteurs qui effectivement démarrent, n'ont pas d'éditeurs, etc., et qui finalement vont faire aujourd'hui le choix simplement du blog. Vous avez vous-même des blogs, on donnera les adresses tout à l'heure, et puis on les mettra sur le site web, évidemment, avec le podcast, mais vous auriez pu simplement vous contenter, ce que vous faites, de publier vos BD sur le blog, en attendant de trouver des éditeurs. Là, vous avez quand même décidé d'avoir un
On aimait un l'objet papier, ouais.
Ouais, on est assez romantique par rapport à ce niveau-là, on aime bien le... On aime bien les livres.
Mais nous aussi, hein, c'était, je ne voulais pas vous inciter à faire que du numérique.
Non, mais tu m'as convaincu, je vais arrêter, je crois.
Ok. On peut citer peut-être quelques-uns des autres auteurs, du coup.
Ouais, alors, donc en gros, les machines, c'est parti d'un premier fanzine qu'on avait fait avec moi et trois autres potes, donc Cléry Dubourg, Théo Calmejane et Mickaël Jourdan, qui sont... tous les trois qui ont fait partie des machines. On avait fait un premier fanzine qui s'appelait Catapulte. Puis après, du coup, vu qu'on était de façon tous potes dans cette classe, il y a Daniel qui est ici, Daniel Selig, et Robin Cousin surtout, Robin Cousin, c'était un des premiers à avoir démarché. Il a publié chez... je vais faire plein de digressions, ça va être incompréhensible. Il a publié sa première BD à Flubble Up il y a 2 ans peut-être, Le Chercheur Fantôme.
Je crois que c'était... Mais non, il y a 3 ans. Ouais.
3 ans, ouais. Et lui, du coup, quand il a vu que nous, avec notre premier fanzine Catapulte qu'on avait fait à 4, on avait réussi à avoir un stand au Festival d'Angoulême grâce à une structure qui s'appelait Magélis, qui était basée à Angoulême.
C'est le Pôle Image.
Le Pôle Image Magélis. Donc on avait réussi à avoir un stand gratuit grâce à cette structure. Et en fait, on s'est dit, mais ouais, ça peut marcher, on peut se retrouver au festival, là, être derrière un stand en tant qu'éditeur. Et du coup, Robin Cousin, qui avait donc essayé de démarcher des éditeurs déjà et qui avait vu que ça avait l'air compliqué, lui, il était vraiment emballé par ce truc de « Allez, on fait carrément une réasso, on va s'y mettre à plusieurs. » Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec... Donc j'en ai déjà dit quelques-uns, mais il y a aussi il y a beaucoup d'auteurs toulousains. On est une grande partie à Toulouse. Il y a notamment
Fanny
Grossens.
Donc vous êtes rencontré à Angoulême, et finalement vous êtes revenu sur Toulouse la plupart.
En fait, après parce que 5 ans à Angoulême c'est chouette, mais c'est une petite ville, du coup on peut s'en lasser. Et le sud nous a tiré un peu, donc on s'est retrouvé pas mal à aller petit à petit à Toulouse et de plus en plus.
Il n'y a pas eu un mouvement d'un seul, comme un seul homme. Ça s'est fait petit à petit.
D'accord. Ouais, ça s'est fait petit à petit par groupe de trois, puis après il y en a deux autres qui ont dit ah moi aussi, donc. Voilà, il y en a un qui résiste encore et encore à l'envahisseur et qui reste à Paris.
Cléry Dubourg, pour ne pas le citer.
Voilà.
Oui, et puis je t'ai coupé, du coup, tu disais Fanny aussi.
Ouais, Fanny Grossens, du coup, qui est...
seule fille du collectif.
Seule fille du collectif, ouais, très important.
Pour l'instant.
Mais, et elle est à Toulouse aussi. Elle a un super boulot. On a aussi Jérôme Bouquet, qui est à Toulouse aussi. Avec qui on fait aussi de la musique, parce qu'on n'est pas que auteur de BD, on est aussi musicien. C'est les deux boulots qui font qu'on peut rester pauvre très longtemps et on adore ça.
Tout à fait, c'est vrai qu'il y a pas mal de liens entre les auteurs de BD et les musiciens indépendants, ça c'est sûr.
Voilà.
On va donner quand même l'adresse. Il y a un blog des éditions Les Machines, c'est tout simplement editionslesmachines.blogspot.fr, édition au pluriel. editionslesmachines.blogspot.fr et puis une adresse mail lesmachines@live.fr. sur le blog, donc, on retrouve les liens vers tous les blogs de tous les auteurs. Les vôtres déjà et puis de tous les autres auteurs. Donc 11, hein, je crois, hein, c'est ça, 11 auteurs, hein,
là on est 12 en ce moment.
Ah, 12,
ouais. Ouais, ça fluctue un peu, il y en a qui partent, il y en a qui arrivent.
Pourtant sur votre site web vous disiez vu la jeunesse de la structure on ne cherche pas de nouveaux adhérents pour le moment, mais vous en avez quand même recruté un, hein, alors.
Ça fait un moment qu'on l'a peut-être pas mis à jour.
Et puis c'est aussi qu'il n'y avait pas de filles. On a recruté Fanny Grossens justement parce qu'on se disait, bon, on va vraiment.
Vous avez eu peur d'une polémique comme à Angoulême il y a 2 ans quand. Alors pour. Je sais pas
mais
si
c'était encore avant, mais c'est vrai que c'est.
Bah, on l'a recruté surtout parce qu'on adore ce qu'elle fait.
Ouais. Ouais. J'espère bien, bien sûr. Ouais. Non, mais je citais c'est la polémique. C'était il y a 2 ans, je crois.
C'était l'an dernier.
D'accord. Ouais, donc les organisateurs d'Angoulême avaient fait une sélection pour le Grand Prix et ils avaient réussi quand même le tour de force de ne mettre aucune fille dans une sélection qui était assez importante, hein, je crois que c'était une quinzaine d'ouvrages et il n'y avait pas une seule fille.
Ouais. C'est honteux et ça perpétue des clichés sur la BD comme quoi c'est que des mecs et tout alors que c'est pas vrai, quoi.
Oui, de fait, c'est pas vrai, on manque pas de noms. Voilà. Moi, j'aime bien dans les auteurs, viens, je le place, j'aime bien Agnès Maupré, qui a édité chez Ankama une relecture de Milady de Winter. Ça, c'est très très chouette, je vous invite à aller lire ça. Allez, ça, c'était ma petite digression à moi. Revenons sur les machines. Donc, sur le site web, vous pouvez aussi, enfin, sur le blog, vous pouvez aussi voir un certain nombre de travaux, et puis vous pouvez aussi acheter un peu
les livres,
commander les créations. Alors, elles sont toutes, quand même, il faut le dire, à des prix très abordables, du coup. Hein, c'est 5, 7, 8 euros plus les frais de port. Enfin, c'est. Voilà. Ouais. Moi, j'ai noté 2 petites choses là récentes. D'abord, un calendrier 2017. Vous faites un calendrier chaque année ?
Non, c'est le premier.
Ouais.
Mais on va en refaire un parce qu'on a eu des retours super positifs et il a vachement bien marché. Donc.
Ouais. Et donc, c'est un calendrier un peu spécial parce que. Alors, c'est un calendrier 2017, donc avec. Bref, c'est un calendrier, mais c'est aussi une bande dessinée en gros où on s'est mis à 12 auteurs, parce qu'il y a 12 mois dans l'année, et on a chacun dessiné un mois, et en fait, c'est un peu sous forme de cadavre esquis, mais pas vraiment, parce qu'on revenait quand même un peu en arrière pour être sûr de faire une histoire qui marche, mais en gros, c'est une histoire de 365 cases. Donc chaque jour, il y a une case de BD qui forme une longue histoire, donc du 1er janvier au 31 décembre.
Énorme, et du coup, écoutez, il n'est pas trop tard, hein, on est encore en début d'année. Donc ça, c'est 5 euros plus les frais de port, donc 5 euros si on l'achète, si on trouve une table que vous tenez quelque part. Genre si on va à Angoulême et qu'on tombe sur votre table, c'est 5 euros du coup.
Exactement. Voilà.
Ouais. Donc c'est vraiment pas cher, à 4 brochets couleur, 28 pages, nous dit le site. Et puis vous avez une revue, dont le premier numéro est sorti également en 2016, qui s'appelle BD Machines. Alors c'est un jeu de mots, hein, c'est la baie comme la baie de Rio, la baie des machines. Qui fait partie de la sélection d'ailleurs alternative du Festival International d'Angoulême qui démarre le 26 janvier. Vous nous dites quelque chose là sur la baie des machines ?
Oui, alors
Alexandre.
C'est moi. La baie des machines, en fait, c'est parti d'une. On s'était dit qu'on. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de revue déjà, qu'il fallait qu'on se remette le pied à l'étrier.
Vous aviez fait Catapulte avant, c'est ça ?
Bah alors, Catapulte, c'est Léo et plus 3 autres. Et sinon, tous les ans, on essayait de sortir ce qu'on appelle la revue des machines. Et donc, on en sortait une tous les ans, mais on n'avait pas fait l'année dernière.
Voilà.
Et du coup.
Une revue avec vraiment tous les membres de l'asso qui faisaient au moins une histoire. Ouais.
Et du coup, comme on était chacun un peu parti sur nos projets perso, nous, sur nos BD avec Flubbelob et tout ça, on avait eu du mal, on n'avait pas réussi à refaire une revue. Et du coup, on s'est dit, cet été, ça serait bien. Et du coup, pour se forcer, on s'est dit, on va faire... À Angoulême, tous les ans, il y a un concept, il y a une journée qui s'appelle les 24 heures de la BD, où pendant 24 heures, tout le monde doit faire 24 pages à peu près. Et nous, on s'est dit, on va faire les 4 heures de la BD. Et pendant 4 heures, on fait une BD de...
Vous avez vu ça plus modeste, oui.
Ouais, c'est ça. Et on s'imposait un thème, on découvrait le thème en même temps, on s'y mettait. Voilà. Et du coup, en gros, BD Machine, c'est essentiellement des histoires qui ont été faites dans ce cadre-là, des 4 heures de la BD des machines.
Alors ouais. plus modeste par contre, parce que c'est les 24 heures de la BD, c'est en 24 heures, il faut faire 24 pages, nous en faisant 4 heures de BD, il fallait faire 8 pages. Hein. Donc on doublait les...
Ah, vous avez quand même doublé le tempo.
C'était plus le sprint de la BD même.
Et du coup, ouais, c'était bien marrant à faire.
Et donc là aussi, il faut le dire, hein, extrêmement abordable, 5 euros.
Voilà.
Et ouais. Pour 72 pages quand même, couleur et noir et blanc.
Ouais.
C'est un truc qui nous tient un peu à cœur, ouais, de garder des prix un peu bas, parce qu'on se dit que...
parce que vous êtes pauvres, vous aussi.
Et oui, et nous aussi, on va en festival et on achète des livres, et c'est chiant de devoir choisir entre plusieurs bouquins, et du coup, on se dit que si nous, on met nos livres pas très chers, et ben les gens, ils ont pas ce choix à faire, et ils peuvent les prendre quoi qu'il arrive.
Ouais.
Et vu que nous, ça nous coûte pas grand-chose à faire, on se recoupe très facilement au niveau de l'investissement. Et du coup, on aime bien proposer des livres pas chers comme ça.
Est-ce que vous avez
très abordable.
Ouais, très chouette démarche. Est-ce que vous avez d'autres sorties là récentes que j'aurais pas notées, mais que vous auriez envie de défendre un petit peu là chez les machines?
Aux machines.
Moi, je suis en train de préparer un bouquin pour les machines, justement, sur un chevalier un peu fou qui tue beaucoup de gens. Mais je ne sais pas trop quand ça va sortir. Je viens de m'y mettre là. Et c'est un
d'accord.
Peu,
à suivre. Mais ce sera chez les machines, du coup.
Et ce sera chez les machines, ouais.
Et sinon, comme je disais, on va repartir sur un calendrier 2018, du coup.
Ouais, et la BD Machine 2, on devrait l'enchaîner assez vite parce qu'on ne voulait pas en faire un annuel encore. On voulait essayer de.
D'accélérer un peu.
Puis à l'étrier, ouais, et en enchaîner quand même pas mal. Voilà. Mais en ce moment.
Sur le même principe, on avait la mini-revue des machines, c'était pareil. On avait un blog qui avait été créé exprès, c'était un blog privé où chacun postait des histoires. Et le truc,
chacun avait un jour de la semaine.
Ouais, chacun avait un jour de la semaine, et dès qu'on arrivait à 32 pages, clac, c'était bouclé, on passait à la mini-revue suivante.
Ouais, on faisait un petit fascicule de 32 pages.
Et donc,
c'est que je sais pas pourquoi je dis ça, un petit fanzine, pardon.
Mais alors, du coup, avec une même histoire, ça était censé se répandre ou non? Ou chaque page, chaque journée était différente?
C'était vraiment un gros.
Chacun faisait ce qu'il voulait. Donc, moi, par exemple, c'était. Je me rappelle même plus, mais je crois que c'était le lundi. Mais par exemple, moi, le lundi, je faisais donc ou une page, ou deux pages, ou un strip de trois cases, mais peu importe. Mais je devais poster quelque chose, absolument. C'était mon jour.
Et au bout de 10 numéros, on a fait une intégrale. Et c'est un objet dont on est tous assez fiers. Ouais.
L'intégrale de la revue.
De la mini-revue, ouais, c'est un pavé comme ça, je sais pas combien il y a de pages de BD.
Bah, du coup, 320 quasiment.
Ouais.
Un truc comme ça.
Voilà. Vendu 40 centimes. Non, c'est pas vrai.
Vendu 10 euros, ouais.
Et 10 euros, ça reste très abordable. Ouais. Donc le Belle et Machine, je le disais, il fait partie de la sélection alternative du festival de bande dessinée d'Angoulême. Alors c'est assez drôle, la BD alternative, ce prix-là, il récompense depuis 82 quand même, bon ça faut le saluer, la meilleure bande dessinée non professionnelle, nous disent-ils, sous forme de fanzine ou recueil collectif de plusieurs auteurs différents. Pourquoi ils ont rajouté non professionnel? On en parlait un petit peu hors antenne déjà. Ils ont cherché une définition pour la BD alternative et non professionnelle, ça sonnait bien, vous croyez? Vous êtes des auteurs de BD, est-ce que ça veut dire être professionnel?
Ouais. Non, c'est ça qui est, j'avoue que c'est un peu bizarre en plus. Alors je sais pas s'ils veulent dire que c'est édité de manière non professionnelle, ce qui du coup en plus marche pas trop parce qu'ils ont déjà filé le prix à un fanzine chinois qui était très bien mais qui était édité à je sais plus combien d'exemplaires.
La sélection est assez importante et il y a plein de dans la sélection il y a plein de revues qui sont éditées de manière pas sur une impression à trois couleurs laser à la maison mais chez des vrais imprimeurs etc. Donc pour le coup même le traitement est plutôt assez professionnel.
Ouais c'est ça. Ouais,
ouais.
C'est
bon,
peut-être qu'ils veulent dire amateur,
peut-être qu'ils veulent dire les gens qui arrivent pas à vivre de la BD, mais dans ce cas-là ils pourraient mettre beaucoup d'autres gens dedans.
Mais je pense que ils ont dû se dire c'est la BD amateur. Ah, amateur, c'est peut-être un tout petit peu insultant, non professionnel. Ah ouais, banco, bon allez, on va boire un café. Et puis ça a dû se passer comme ça.
Pourtant, amateur, c'est un très beau mot. C'était Orson Welles qui disait que c'était un des plus beaux mots du monde, ouais. Amateur. Il y a aussi dans cette... la sélection est assez importante pour le prix de la BD alternative de ce festival d'Angoulême 2017. Mais il y a aussi dedans un mensuel de bande dessinée, d'illustration, de jeux plutôt destinés aux enfants qui s'appelle Biscotto. Et deux d'entre vous y participent, à savoir Alexandre et Léo. Vous nous en dites un mot de Biscotto?
Oui, c'est comme tu as dit, un journal pour enfants. Enfin, pour adultes de moins de 13 ans.
Et journal, parce que c'est sur papier, un peu style journal, justement. C'est un format journal papier. Quoi.
D'accord, quotidien, quoi.
Voilà, c'est
d'accord.
Ça.
Et du coup, c'est un journal qui a été créé par Julie Stabler et
Suzanne Arex.
Et qui, aujourd'hui, c'est Julie Stabler et sa sœur Catherine Stabler qui s'en occupent. Catherine, elle est sur Toulouse, d'ailleurs.
Ouais.
Julie, elle est à Angoulême. Et du coup, voilà, c'est un super journal où il y a plein de super dessins. C'est plein d'humour, c'est plein de blagues et c'est plein de jeux. Et c'est un bon tremplin parce que...
Ouais, en plus, c'est vraiment plein de jeunes auteurs vraiment actuels. Et c'est, du coup, ça fait quelque chose d'assez frais pour les enfants où c'est pas toujours un peu le même style de dessin qu'on peut retrouver chez... Bon, je vais rien dire parce que sinon, après, je vais me foutre dans la merde. Mais,
ouais, ne calomnie pas tes futurs employeurs potentiels.
Ouais, c'est ça. Mais non, ouais, en gros, il y a vraiment plein de jeunes auteurs. Et nous, du coup, il y en a quelques-uns des machines qui ont participé, en plus d'Alexandre et moi. Et c'est vraiment, il y a des super jeux à faire, à fabriquer, des jeux où il faut chercher des petits animaux. Il y a plein de choses éducatives et c'est vraiment un journal très réussi. Ce serait bien qu'il ait le prix cette année.
Bon, Biscotto, vous pouvez pareil en trouver sur Internet. Ils ont un site web, un blog, un Facebook.
Et en librairie aussi, on peut le trouver.
Oui, en librairie, ouais. Pas en kiosque, mais en librairie.
Peut-être juste un mot, c'est difficile de d'un seul coup de travailler pour un public enfant, un public plus jeune. Ça vous a demandé un temps d'adaptation? Comment vous avez pris le...
Bah, on le vit pas différemment, je pense.
Ouais.
Moi, parce que j'avais jamais fait ça.
Donc Alexandre.
C'est moi.
Je précise, il n'y a pas la télé. Il faut que quand il y a beaucoup d'invités, on redit. Donc Alexandre Giraudet.
Ouais, moi, c'était pas du tout naturel pour moi de faire ça. Et puis, en fait, je me suis rendu compte
ça venait assez naturellement.
Bah, en fait, j'y avais jamais pensé, mais comme j'avais des copains qui étaient dans Biscotto, moi j'ai découvert Biscotto par les copains on a des copains en machine qui étaient dedans, et puis Léo est rentré dedans, et puis Léo c'est mon coloc, et du coup j'ai découvert Biscotto comme ça, j'ai trouvé que c'était génial, et j'avais envie, et quand elles m'ont accepté dedans, j'étais trop heureux, et voilà, et en fait, je pensais pas y arriver facilement, en fait si, c'est vraiment cool à faire, c'est un autre exercice. Je m'adressais pas du tout aux enfants avant dans ce que je faisais, et je trouve que c'est vraiment un chouette exercice.
Léo ?
Moi, ça a été moins dépaysant, parce qu'en fait, dans tout mon travail en bande dessinée, j'ai beaucoup de mal à faire des choses sérieuses, parce que j'aime pas trop ça, et je sens que je suis pas du tout à l'aise là-dedans, et que c'est nul quand j'essaye d'être sérieux. Du coup, je fais toujours des choses quand même assez drôles, où en plus j'aime bien faire des jeux, déjà depuis toujours, donc ça m'a pas... Ça m'a pas beaucoup dépaysé. Vraiment hyper agréable même de faire ça, parce que c'est j'aime bien m'adresser aux enfants.
Ouais, donc tous les deux, ça vous est venu quand même assez naturellement. Ouais. Biscotto, donc. On va continuer à parler BD, mais on va se faire une petite pause musicale. Et ça tombe bien, parce que vous l'avez dit, vous êtes aussi, pour deux d'entre vous, membre de groupe de musique. Alexandre, tu fais pas de musique, toi?
Non, je sais jouer Clair de la Lune à la guitare.
Bon, peut-être un live à la radio plus tard. Et je propose de s'écouter un morceau de The Last Drop. C'est votre groupe à tous les deux, hein.
Ouais, avec Robin aussi. Donc Daniel, Daniel, Robin et moi.
C'est un groupe de dessinateurs de BD, du coup.
C'est ça.
Exactement, ouais.
D'accord. Et qui existe depuis combien de temps? Vous nous le présentez vite fait?
On a commencé ça en deuxième année d'Angoulême, je crois. Donc ça fait bientôt 10 ans. Et on a commencé ça un peu avec le même esprit qu'on a commencé les machines. On a commencé à organiser des concerts nous-mêmes. Notre premier concert, c'était dans ma cuisine, je me souviens, à Angoulême.
Il y avait du monde ?
Ouais, ça nous a vachement donné un coup de boost d'ailleurs. On a eu la chance d'être entouré d'amis qui venaient nous voir, même quand ils connaissaient beaucoup trop. Et on est devenus amis avec l'ingé son de l'école qui nous a très gracieusement aidé à enregistrer 2-3 albums et des trucs comme ça. Et ouais, on continue à faire des concerts. On a fait un concert au Pavillon Sauvage il y a un an et demi.
Et déjà à venir peut-être ?
On aimerait bien d'ailleurs. Si
peut-être en avril à Limoges. Mais sinon à Toulouse, c'est quand vous voulez.
Ok, ouais. Avis au programmateur. Allez, le morceau que j'ai choisi, c'est Steak, The Last Drop dans le mag sur Canal Sud. Becoming red. The Last Drop sur Canal Sud, donc le groupe de nos invités, à savoir Léo et Daniel, mais ils sont pas venus parler de ça, ils sont venus parler de BD parce qu'ils sont surtout et d'abord, enfin je sais pas si on peut dire surtout, mais ils sont en tout cas auteurs de bande dessinée, ainsi que Alexandre. Alors on a parlé de votre projet collectif, hein, du collectif de micro-édition Les Machines, mais comme je le disais en intro, vous avez aussi sorti chacun un album chez le même éditeur. Comment ça se fait d'ailleurs que vous ayez tous sorti en 2016 un album chez le même éditeur, à savoir FLBLB,
oui.
Éditeur de Poitiers.
Oui.
Bah en fait ils sont venus faire un workshop à l'école des Beaux-Arts d'Angoulême où on était tous et on s'est bien entendu avec eux. Et ils nous avaient fait faire un workshop de roman photo et ils avaient tellement aimé ce qu'on avait fait qu'ils ont décidé de l'éditer à leur maison d'édition donc Flumelum. Et on est resté en contact et du coup ils nous ont proposé de faire des bouquins à des moments un peu différents, mais il s'est avéré qu'on les a tous finis un peu la même année. Donc,
ouais, vous avez fait un tir groupé. Ouais. Ouais. Alors, Flebeleb, ça a été fondé en 2002, hein, on en dit quand même un mot. Effectivement, tu l'as dit, ils font du roman photo, ils font aussi des flipbooks, j'ai vu. Donc, les flipbooks, c'est des livres qu'on fait passer les pages très rapidement avec le doigt et ça anime l'image. Hein. C'est un peu l'ancêtre de l'animation. Et puis, donc, quand même, pas mal de bandes dessinées. Je n'ai pas noté leur site web, mais je crois que ça doit être flebleu.com, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, flblb.com. Comment ça se passe, du coup? Là, c'est une maison d'édition, quand même, du coup, plutôt indépendante.
Ouais, plutôt indépendante.
Même si elle existe depuis 2002.
Ouais.
Vous avez. Tu dis que ça a été une rencontre, etc. C'est-à-dire, après, vous avez amené un projet, donc vous étiez en contact. Et puis après, quand vous avez eu un projet de bande dessinée qui vous paraissait plus important que quelque chose que vous pouvez sortir en machine, ça se définit? Comment à un moment on dit tiens on va aller sortir quelque chose chez eux plutôt que de le faire nous-mêmes dans le garage comme on faisait jusqu'à présent?
C'est eux qui nous ont proposé en fait.
Ouais, on en avait discuté avec eux et eux ils aiment bien quand même les projets assez conséquents, donc on n'avait pas prévu vraiment que ça soit aussi gros par exemple. Moi je pensais pas, enfin j'avais dit 90 pages ça devient un peu un maximum et au final elle en fait 140, non je sais plus, 120, enfin bon bref, mais au final on a tous fait des bouquins plus longs que ce qu'on pensait aussi je pense.
Mais c'est venu avec un échange avec les éditeurs?
Ouais, tout à fait, ouais.
Ouais, c'était un échange constant avec les éditeurs, ils nous ont vachement conseillé sur l'histoire, sur la manière d'aborder et de construire une histoire aussi longue, chose à laquelle nous on n'était pas du tout habitués. Et du coup ouais, c'était vraiment un échange du début à la fin.
Parce qu'il faut dire qu'aux machines, les histoires les plus longues qu'on fait, en général, elles font une trentaine de pages.
Ouais.
Ouais.
Et moi, par exemple, je fais des BD très courtes. Je fais des BD qui vont entre 1 à 10 pages maximum. Et du coup, je suis vraiment sorti de ma zone de confort.
Alors, donc on va commencer, allez, on va commencer du coup avec toi. Toi, ta bande dessinée, c'est Les 3 jours qui ont changé le monde.
Ouais.
Et alors, effectivement, tu t'es sorti de ta zone de confort parce qu'il va y avoir un tome par jour. Ouais. Et c'est quand même des tomes assez importants. Alors, bah, je l'ai là sous la main. Donc là, le premier, on est à plus de 230 pages, quoi.
Oui, mais ça se lit vite, hein, vous inquiétez pas.
Ouais, alors ça se lit vite parce que du coup, c'est un format assez petit. Ouais. Je sais pas combien ça fait, mais bon, pour le dire aux auditeurs, auditrices, ça ressemble à. C'est un peu plus grand qu'un livre de poche, quoi. Ça, c'est plus, ça ressemble un peu à un livre de littérature en termes de format, quoi.
Hein. Bah, ouais.
Voilà, ça fait, c'est plus ça qu'un format BD. Et effectivement, dedans, c'est 4-5 cases maximum et souvent des grandes cases.
Ouais, ouais, ouais.
Voilà. Donc effectivement, ça se lit assez vite. Mais quand même, donc le premier tome est paru, donc le premier jour de ces 3 jours qui ont changé le monde. Et on a le tome 2 qui sort en mai, je crois, et le tome 3 en novembre. J'ai vu ça sur...
Oui, enfin, c'est une première date qu'ils ont sorti comme ça. Mais...
Parce que c'est pas dessiné encore.
Mais dans l'idéal, ça serait en mai et en novembre, mais... Faut que je les fasse, quoi.
Ah d'accord, ils sont pas dessinés, c'est ça encore.
Si si, le tome 2, j'ai pas mal avancé dessus, mais il est pas encore fini, quoi.
Parce qu'ils nous ont même sorti les couvertures déjà, donc tout est prêt.
J'ai fait les couvertures, j'ai fait les 4 de couve, mais j'ai pas fait l'intérieur.
T'as commencé par les couvertures. Bon, raconte-nous un petit peu l'histoire, qu'est-ce que c'est que ces 3 jours qui vont changer le monde, ou qui ont changé le monde d'ailleurs, parce que c'est au passé.
Ouais, c'est vrai, c'est au passé, ouais. L'histoire des... Alors les 3 jours qui ont changé le monde, c'est d'abord une histoire d'élection présidentielle.
Incroyable.
Ouais.
Est-ce que ça y a...
Dans 3 jours, ben...
Et pourtant, on voit peu de lien avec l'actualité, finalement, alors que ça parle quand même d'année électorale, t'as réussi quand même à nous amener dans un monde complètement différent.
Ouais, mais c'est un peu un hasard, parce que le projet, je l'ai commencé, au final, il y a 3 ans, en partant un peu à l'aveuglette, je savais pas où du tout... J'ai beaucoup fonctionné à l'improvisation, et... Enfin, on a beaucoup travaillé avec l'éditeur pour... Il m'a un peu aiguillé pour la réécriture, jusqu'à ce qu'on tienne un truc bien ficelé et tout, donc... Enfin, c'était pas du tout volontaire de ma part.
C'était pas un plan marketing, on va sortir ça à l'année électorale.
Ouais. Et du coup, donc, dans 3 jours, y a les élections. C'est le jour des élections. Et les élections, elles vont être un peu perturbées par 2 événements. Le premier événement, c'est l'évasion d'un personnage qu'on peut voir sur la couverture, qui s'appelle Rodrigo Delgado. Et ce personnage, c'est le roi de l'évasion. Il s'est échappé de toutes les prisons dans lesquelles on l'a enfermé. Et on a même construit une prison spécialement pour lui, pour qu'il arrête de s'échapper.
Et ça n'a pas marché.
Mais il s'échappe quand même. Et il s'échappe 3 jours avant les élections. Et il s'échappe pas n'importe comment, en plus il s'échappe d'une manière complètement débile, en se cachant dans une bassine de linge sale. Ça, je me suis inspiré d'un vrai truand... Mexicain,
ouais, ouais,
Joaquin Guzman, qui s'est vraiment échappé comme ça.
Ouais, sauf que lui, Guzman, il a des sacrées complicités. Ouais, mais ceci dit, y a quand même, on apprend dès le premier tome qu'il a quand même, évidemment, ce Rodrigo, bénéficié de complicités au sein même de la police.
On n'en dit pas plus, mais il y a une histoire un peu trouble de... Enfin, disons que c'est pas très clair ce qui se passe au sein de... enfin, on verra. J'en dirai un peu plus dans le tome 2.
non, on va pas tout voir. Et du coup, ça va créer, en tout cas, ça va rentrer aussi dans la campagne électorale.
Ouais.
Et la présidente sortante, du coup, veut absolument, a besoin qu'on retrouve.
Oui, parce qu'elle, elle a besoin qu'elle retourne en prison, sinon, elle va perdre les élections à cause de. Parce que sa cote de popularité, elle a sombré. En fait, le truc, c'est qu'il y a un suffrage, un nouveau mode de scrutin qui est mis en place.
Ouais, ça c'est important de le dire, mais c'est plus une élection suffrage direct.
Les gens se déplacent plus pour voter, on va plus se cacher dans un isoloir, on va plus mettre un papier dans une urne. Il y a un espèce de logiciel qui va calculer la popularité, la popularité stricte des candidats, qui va regarder sur 5 ans... sur les 5 dernières années, tout ce qui s'est dit sur les candidats sur Internet, sur les forums,
sur les réseaux sociaux,
combien de likes ils ont eu, combien de trucs, et qui calculent leur vraie popularité, et c'est comme ça que... Et du coup, on ouvre le récit avec la présidente qui dit « C'est pas possible, Falieri, donc c'est son adversaire, est repassé devant moi, il a plus de likes que moi sur Facebook, enfin sur les réseaux sociaux. Voilà. »
Méfie-toi, tu es peut-être un précurseur, peut-être, ou peut-être même tu leur donnes des idées, attention.
Et du coup, je disais qu'il y avait 2 événements qui ont chamboulé l'élection, donc il y a celui-là. Et le deuxième, il est créé par un personnage qui s'appelle Jeff. Jeff, c'est le petit frère de... un peu l'héroïne de l'histoire, qui s'appelle Nina.
Qui est une policière, elle.
Qui est policière. Et voilà. Et du coup, lui, il a un rêve dans la vie, c'est de devenir une star du web et de faire le buzz du siècle. Et du coup, il va provoquer un peu un événement... Il va provoquer un phénomène qui va devenir complètement viral, mais en fait, il va créer un buzz, mais qui va complètement lui échapper. Et,
à son grand désespoir.
Ouais, et ce buzz-là, il va aussi avoir un gros impact sur la suite des événements. Et on verra que peut-être que les trois jours qui ont changé le monde... Alors c'est un peu de sa faute aussi, quoi.
Du coup, le monde 2.0, le web, les réseaux sociaux, etc., c'est un peu au cœur, du coup, de ton scénar, là. C'est quelque chose qui t'intéressait ou c'est venu un peu comme ça?
C'est venu un peu comme ça. Moi, je suis pas très réseaux sociaux, je suis pas très impliqué là-dedans, mais...
Du coup, tu regardes ça de loin?
Ouais, je regarde ça de loin, mais bon, comme tout le monde, je me rends compte qu'ils sont de plus en plus présents... dans la vie de tous les jours, qu'on les utilise et pas forcément bon escient, on leur fait dire je sais pas, j'ai l'impression qu'on on les... enfin ouais, je sais pas, aidez-moi.
non mais alors ce que je vais t'aider du coup. Mais du coup, c'est une bande dessinée qu'on peut pas dire, c'est pas y a pas un discours derrière, non, c'est pas une bande dessinée politique,
c'est léger quoi.
C'est le ton est léger, mais quand même voilà, on retrouve quand même des choses comme ça, l'élection présidentielle, les réseaux sociaux. Ouais. Donc des choses qui parlent quand même de notre actualité, ouais, et ouais, du monde dans lequel on vit, ouais, quoi.
Mais c'est une satire mon éditeur le présente comme une satire sociale. Donc
ouais, c'est pas mal, je crois que le mot est...
Je suppose que c'est...
Donc ça, c'est les 3 jours qui ont changé le monde. Le tome 1 est déjà en librairie. Les 3 jours qui ont changé le monde, premier jour, par Alexandre Géraudy. 240 pages, il y a plus de 230 pages, tiens, c'est marqué. 240 pages, noir et blanc, chez Flubbelub.
Flubbelub. En fait, tu peux le prononcer comme tu veux.
Ouais. Oui, Flubboulou. Flubboulou. Allez, Daniel.
Oui.
Toi, tu as sorti, alors ça c'était en début d'année.
Oui.
Alors c'est la seule des 3 bandes dessinées que j'ai pas lu là, que Julien n'a pas lu non plus. Un Kung Fu.
Oui, Un Kung Fu.
Ou Un Kung Fu, non?
Un Kung Fu.
C'est sorti, donc pareil, c'est 128 pages, noir et blanc. Là c'est un format plus grand.
Ouais.
Hein, plus habituel, on va dire, bande dessinée, même si ouais, maintenant tous les formats existent.
A4 en ce moment.
Et ça se passe dans les années 30 et c'est le tournage du premier film d'arts martiaux en Europe.
C'est ça, ouais, dans les années 30.
Tu nous en dis un peu plus?
Alors ça parle d'un réalisateur qui s'appelle Maurice, qui est un peu fauché et un peu fou.
Réalisateur, ouais.
Qui est réalisateur de films, ouais. Et qui veut faire des films de... très réalistes et qui ont un fond social et tout. Et il rencontre par hasard un jeune Chinois qui est fraîchement débarqué de Hong Kong, qui est très fort en Kung Fu. Et il se dit qu'il va lancer le film de Kung Fu avec ce mec-là en tant qu'acteur, quoi. Et du coup, vu qu'il a pas trop de fric, il arnaque le maire de Paris et un banquier proéminent pour avoir des fonds. Et il s'entoure d'une équipe de réfugiés venus des quatre coins de l'Europe qui ont eu des soucis dans leur pays d'origine et qui sont retrouvés à Paris. Et il les engage comme ça pour être figurant ou caméraman, etc., pour ce tournage de film. Le problème, c'est qu'ils se rendent compte que Wei, donc le jeune Chinois, il a un problème, c'est qu'il tape trop fort, il n'arrive pas à contrôler sa force, et du coup, il envoie tous les acteurs à l'hôpital. Et même en ayant suivi un stage de Hong Kung Fu dans son temple Shaolin à Hong Kong, mais qu'il a dû fuir à cause de l'invasion des Japonais, et du coup il a pas pu finir cet entraînement de Hong Kung Fu, et ça va leur causer pas mal de problèmes.
Ouais. Le Hong Kung Fu, donc l'anti-Kung Fu, quoi. Quelque chose pour, ouais, pour arriver à faire semblant, quoi.
Ouais, pour okay, maîtriser sa force.
Bon, on a déjà vu dans ton pitch là que ça part dans tous les sens, j'ai l'impression que c'est assez foisonnant.
Ouais.
Et puis, l'idée c'est que plus le délire est grand et plus ça part, plus ça te plaît, quoi.
Ouais, c'était assez marrant. Ouais. Ça partait d'un concept assez simple, genre comment faire un film à plusieurs quand on n'a pas beaucoup de moyens. Et puis, au fur et à mesure du projet, il y a plein de trucs qui sont greffés et tout. Et voilà, quoi.
Alors là, c'est aussi un gros format, je disais, 128 pages, donc une longue histoire.
Ouais,
c'est un one-shot, ça se termine à la fin.
Ouais, ça se termine à la fin, ouais. C'est fini, ouais.
D'accord.
Il y a la guerre qui éclate, donc ouais.
Ah ouais, c'est bien, ouais, c'est pratique pour un scénariste. Hop, c'est bon, c'est la guerre. Ouais. Et du coup... le passage au gros format, un peu selon ton parlait là, pareil, avec Alexandre avant, c'est-à-dire passer de petites histoires ou de choses assez courtes à 128 pages... Ça a été, tu l'as vécu comment?
C'est assez compliqué. Ouais, c'est vraiment autre chose, quoi. On on apprend à suivre un scénario sur le long terme et à faire développer des personnages tout ce genre de trucs techniques qui font qu'on raconte des histoires quoi, et à une plus grande échelle. Mais ouais, c'était vraiment intéressant d'apprendre à faire ce genre de trucs quoi, vu que c'était notre première fois tous les trois. Et ce qui était marrant, c'est que vu qu'on bossait tous les trois un peu ensemble, vu qu'on habite en coloc en plus ensemble, on se parlait de comment ça avançait, on se montrait nos planches, on discutait vachement de l'avancée de nos projets respectifs, et c'était marrant ouais, d'avancer comme ça à plusieurs.
Ouais, du coup, c'est un coloc atelier un peu, quoi.
Ah oui, complètement, ouais, on travaille grosso modo à la maison. Ce genre de truc, voilà.
Ouais, on disait déjà que les éditions machines, c'est votre garage en fait.
Bah ouais, voilà. C'est ça, exactement. Ouais.
Alors, avant de venir sur la dernière bande dessinée, j'aimerais quand même qu'on parle un peu de votre trait. Il est différent, hein, chacun a son univers, etc. Mais j'ai commencé l'émission en disant que vous aviez des points communs. Je trouve aussi au niveau du trait de l'univers, il y a des points communs. Mmh. Vous êtes tous des adeptes de la ligne claire, on va dire, ouais. Avec un trait. Alors évidemment, à la radio, c'est pas évident à décrire, mais faussement simple, quelque chose qui touche aussi un peu des fois à des dessins d'enfants, même si évidemment ça n'en est pas, mais il y a quelque chose comme ça dans la simplicité. Alors j'ai cherché quand même pour les auditrices auditeurs un exemple un peu grand public, et je disais c'est plus proche de Levi Strandheim que de Enki Bilal, on va dire, quoi, ou de Rosinski.
Ouais, c'est très bien, c'est exactement ça. Ouais.
Ça, c'est des influences que vous reconnaissez, Levi Strandheim, ou est-ce qu'il y en a d'autres éventuellement?
Bah, toute cette nouvelle, enfin ce qui s'est appelé le mouvement de la nouvelle bande dessinée, où il y a eu Trondheim, Larsenet, Blin, tout ça, c'était un peu des mecs qui cassaient un peu les codes classiques et qui ont fait des choses plus minimalistes ou avec un côté peut-être plus lâché même et moins académique, et du coup qui ont ouvert des portes, je pense, qui nous ont plu et qui font que nous on s'est nourri un peu de ça, un peu de nos vieilles lectures aussi, qui peuvent être des trucs franco-belges en ligne claire assez classique, mais du coup, vu que ça a été, il y a eu un peu tout ça qui est arrivé après, même Gottlieb, Gottlieb, ça a changé beaucoup de trucs aussi. Je pense que quand on lit tout ça, au bout d'un moment, nous, je pense, on est un peu une sorte de résultante de toutes ces expérimentations qui se sont faites depuis, je sais pas, ces 20 dernières années, quelque chose comme ça.
C'est vrai que vous... un peu comme
oui,
ça.
C'est vrai que votre dessin, clairement, à tous les trois, avec ses différences, s'inscrit quand même dans un style qu'on retrouve dans la bande dessinée indépendante, quoi. Mm-hmm. Hein, ce style de dessin là.
Ouais, on est tous influencés par ces trucs-là. Ouais, Gottlieb, Claire Bretéché aussi, pas mal. Razor,
ça, c'est les anciens, voilà.
Ouais, mais même les trucs plus anciens, ouais, comme
et
ça.
Et les choses plus récentes, vous avez des influences un peu ou
Déjà les copains pour commencer.
Ouais. Ça c'est vrai, hein, mine de rien, d'avoir bossé ensemble.
Vous êtes nourris les uns
les
autres.
Un peu, ouais.
Ouais.
Et sinon, c'est trop dur, il y a trop de trucs différents.
Ouais, bien.
Moi j'aime bien Tom Gould en ce moment, c'est un auteur anglais qui fait c'est plus du strip que de la BD à histoire, mais c'est assez drôle, il mélange science-fiction et Shakespeare et tout.
Mais
c'est
toi tu es assez adepte du strip, parce que je crois que c'était toi l'auteur de... Alors c'était quoi? C'était
Le Héron. Ouais.
Le Héron,
ouais.
Alors ça c'est aux machines d'ailleurs.
Oui, en fait moi j'ai une culture plutôt anglo-saxonne de la BD, donc c'est peut-être plus Bill Watterson et
Bill Watterson, l'auteur de Calvin et Hobbes.
Calvin et Hobbes, ouais. Que Tintin par exemple, ou des trucs comme ça quoi, du coup ouais, j'ai fait cette BD Le Héron pour les machines, c'était ma première BD aux machines, qui était une série de strips sur deux colocataires, il y en a un qui c'est un héron et il essaie d'être super héros mais il y arrive pas trop, et en même temps il essaie d'avoir un boulot mais il y arrive pas trop et tout, ouais,
ça... C'est très très chouette, assez délirant, et ça je vous le recommande chaleureusement. Ça je l'ai lu quand même, j'ai pas lu le Kung Fu, mais j'ai lu le Héron grâce à Marion, qu'on salue, merci Marion si elle nous écoute.
Salut Marion.
Salut Marion, merci.
Alors, puisque tu parles d'ailleurs, c'est pas mal ça de citer ça, parce que le Héron c'est quand même un humour assez absurde, et ça aussi on le retrouve, vous avez quand même tous les trois, alors j'ai parlé de votre dessin, mais même dans les univers, ça part un peu dans tous les sens, ça manie l'absurde, ça manie un style d'humour comme ça, et puis au final c'est quand même toujours ça part quand même toujours d'une aventure. Vous aimez bien l'aventure ou quoi? En tout cas, ces trois bandes dessinées, à chaque fois, c'est un peu de l'ordre. C'est une aventure, c'est une épopée, quoi.
Ouais, je pense que quand on est dans les 100 pages, 200 pages, il vaut mieux qu'il y ait un peu d'aventure, parce que sinon, ça peut être sacrément long. Mais ouais, non, je pense qu'on aime bien aussi raconter des histoires et des aventures.
Parce que vous avez beaucoup à remplir. C'est
non, non, non. Intérêt, mais oui, ouais. Non, c'est, je pense, on trouve assez. Enfin, oui, on aime l'aventure.
Ouais, on aime.
Ouais. Non, mais ouais. Bon, bah, du coup, une autre aventure, c'est celle de Lisa. Ouais. Lisa de la NASA. Donc, ça, c'est paru en avril un peu. T'es le premier, ouais, toi, à avoir sorti cette année l'album. C'est Lisa ça. De la NASA, donc toi, c'est Léo Louis Honoré. Hein. Et Lisa de la NASA, donc, ça raconte l'histoire d'une cosmonaute. Voilà. Une héroïne.
Alors, c'est ça. Donc, alors, c'est dans une sorte de futur proche où il y a une mission dans l'espace, donc, qui est commandée par Lisa. Une superbe astronaute. Elle est avec deux autres coéquipiers. Ils vont chercher un astéroïde dans l'espace qui est censé être très riche en métaux rares et des choses qui pourraient faire avancer la science. Ça part d'une vraie future mission de la NASA, mais de prendre un astéroïde et de le ramener en orbite autour de la Lune pour pouvoir aller pêcher des ressources assez rares sur Terre plus facilement pour faire avancer la science. Alors dans ma BD, c'est pas autour de la Lune qu'ils mettent l'astéroïde, mais autour de la Terre. Bon. C'est pour un but scénaristique dont je ne vous en dirai pas plus.
On ne révélera pas les ficelles.
Voilà. Et bref, cette mission donc, dans l'espace se passe pas hyper bien parce que quand ils reviennent sur Terre, les deux astronautes Paul et Ed qui étaient partis avec Lisa sont devenus quand même sacrément débiles. Ils font des jeux de mots vraiment de plutôt mauvaise qualité et ont vraiment des comportements très enfantins. Donc alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors il y a un ancien commandant qui s'appelle William qui vit dans le sous-sol de la NASA parce que donc c'est un espèce de trou. Avec des toiles d'araignée, et lui, donc, il est un peu parano, il est persuadé que les extraterrestres existent. Et que...
C'est un peu le complotiste de la BD, lui.
Exactement, ouais. Ouais. Donc, lui, ils l'ont caché au sous-sol pour pas trop qu'il fasse des siennes, mais bon, ils ont jamais pu le virer de la NASA, vu qu'il était fils de gouverneur. Donc, mais lui, donc, il va essayer un peu de prouver aux autres, par tous les moyens, que c'est une histoire d'extraterrestres. Et en plus de ça, donc à la NASA, c'est un peu la panique parce qu'il y a un saboteur mystère. Et qui est ce saboteur on ne sait pas, on le saura dans la BD bien sûr. Mais donc le chef de la NASA appelle le FBI en renfort et il en profite pour appeler un ancien ami d'enfance qui est maintenant au FBI. Et donc ça va être l'occasion de renouer des liens.
Oui, car il n'y a pas seulement du suspense, c'est aussi de l'amitié.
Voilà, c'est une histoire d'amitié, de suspense, de débilité surtout, beaucoup. Et voilà.
Et donc ça c'est Lisa de la NASA, toujours chez Flebleubleu. Flebleubleu. Tu le dis Julien, tu sais le prononcer?
Flebleubleub.
Hein, pas mal, pas mal.
Ouais, mais pour revenir à ce que tu disais sur les récits d'aventure, moi, je sais pas, je pense que les autres aussi, c'est pas du tout naturel. Grégory Jarry, c'est l'éditeur de Flebleubleub.
Ouais.
Il avait la volonté de faire un livre avec moi, mais il m'a dit il faudra faire c'est parti de lui en fait, parce que moi, de moi-même, j'aurais jamais fait un livre aussi long, quoi. Je savais pas faire et j'ai appris à le faire en le faisant, quoi, avec lui. Et il avait vraiment cette volonté-là de me sortir de ma zone de confort et de me dire, mais t'es capable de le faire, je suis sûr que tu vas faire.
Ah, surtout que là, t'en fais trois pour le coup.
Et là, ouais. Mais c'est, du coup, je suis parti dans un truc où j'ai.
C'est vrai que si vous faisiez un concours, là, t'es tout le monde. Là. 3 volumes de 240 pages. C'est des petites pages.
C'est la BD qui m'a. Enfin, elle a évolué un peu malgré moi et du coup, ouais, au final, c'est devenu un truc énorme et voilà, il a fallu me la couper en 3 tomes. Mais je te jure que moi, de moi-même, ça me resterait, mais j'ai jamais venu à l'idée. Moi, pour moi, je suis aux machines, il y a des blagueurs et des poètes un peu, et des poètes blagueurs et tout. Mais moi, j'étais un blagueur, tu vois, je faisais juste des blagues. Je faisais pas du tout d'histoire d'aventure, c'était pas du tout mon truc. Je faisais pas d'histoire longue, quoi. Ouais.
Alors, toi, t'avais. On va revenir sur toi, Alexandre, parce que j'ai quand même une question. Ouais. Est-ce que t'as un problème avec les chats? Parce que j'ai lu la bande dessinée que t'as fait donc, dans la dernière revue Baie des Machines, ouais, dont on parlait tout à l'heure, la revue des micro-éditions Machines, où tu parles de chats qui. Tout un stratagème pour capturer un chat qui va finir par se faire dévorer. Et tu avais déjà sorti aux éditions d'ailleurs Flebleubleu Boulou Boulou, oui, il y a quelques années, une bande dessinée qui s'appelait Du pain et des chats, où les chats en prenaient plein la tronche aussi. Qu'est-ce que t'as contre ces pauvres animaux? Alors c'était pas une bande dessinée d'ailleurs, hein, Du pain et des chats, c'était plutôt des illustrations, des montages.
C'était des photos que je chopais sur le web, que je recadrais et que je légendais, quoi.
Voilà, c'est ça. Et du coup, pour le coup, avec un humour effectivement
débile,
assez débile, voilà, absurde, etc. Qu'est-ce que t'as contre les chats?
Mais j'ai rien contre les chats, mais eux ont quelque chose contre moi depuis que je suis tout petit, je crois. Non, ouais, j'aime beaucoup les chats. Hein, faut pas... Enfin, je les aime pas beaucoup, mais... Enfin, j'en aime certains.
D'accord.
Genre, et puis, les chats, chez mes parents, je les aime bien.
Puisque j'ai cité Du pain des chats, présente un petit peu aussi cet ouvrage, qui du coup, lui, est sorti il y a quelques années déjà.
Du pain des chats, il est sorti aux machines, d'abord.
D'accord.
C'est premier livre chez les machines. En fait, moi, je suis pas arrivé, je fais pas partie de la bande qui a créé les machines, je suis arrivé après.
D'accord.
Quand je suis arrivé sur Angoulême, je suis arrivé pour mon master. Et du coup, j'ai vu, waouh, il y avait plein d'assauts ultra productifs. Enfin, il y avait une vraie émulation à Angoulême de jeunes qui se battaient pour faire de la BD. Et je trouvais ça super. Et j'avais trop envie d'intégrer un collectif. Et le collectif qui me faisait le plus vibrer et avec lequel j'avais le plus d'affinité, c'était les machines. Et du coup, j'ai réussi après beaucoup. Après avoir.
Il y avait des bisutages compliqués.
Il se trouve qu'eux aussi, ils aimaient bien ce que je faisais. Du coup, ils m'ont pris. Et voilà, j'ai intégré les machines. Et mon premier livre, c'était Du pain et des chats, que j'ai fait
Un festival d'Angoulême en 2014. Ouais. Et du coup, je sais même pas, 2013.
Et du coup, Flubbelub, ils ont vu ce livre-là. Et ça les a fait rire. Ils ont dit, bref. Voilà, on aimerait bien l'éditer, et voilà.
Ouais, donc là, effectivement, c'est ce qu'on disait, hein, Flubbelub, n'édite pas que les bandes dessinées, là, on n'est plus dans la bande dessinée, ouais. Et c'est un petit ouvrage, hein, ça, c'est...
Ouais, c'est un petit truc... Alors, Grégory, donc l'éditeur, il dit, c'est une crotte de nez lancée à la figure du monde de l'édition.
Ouais. Bah voilà, si vous voulez découvrir cette crotte de nez, ça aussi, c'est dans le catalogue des éditions FLBLB.
Et ça vient d'être
FLBLB.
Édité. Hein.
Ça vient d'être édité,
ouais, c'est une nouvelle édition qui est en librairie.
Du pain et des chats, mais... c'est assez délirant, hein. Moi j'avoue que j'ai bien rigolé quoi.
Mais je n'ai rien contre les chats, voilà,
ni contre le pain.
Je préfère le pain, c'est tout.
Bon allez, on va se faire une petite pause musicale dans ce magazine. Tu nous as amené, Daniel, un morceau de ton autre groupe, enfin d'un de tes autres groupes.
Oui, j'ai un autre groupe avec Jérôme, qui fait aussi partie des machines et qui est aussi en train de travailler sur un livre pour Flubbelub, qui était à Angoulême, blablabla. Et
que d'auteurs de bandes dessinées qui sont aussi des musiciens.
C'est une autre maison d'édition.
Exactement. Et en fait, c'est des chansons que j'écris tout seul. Et pendant un moment, je mettais de la batterie électronique par-dessus. Et après, je me suis dit que ce serait cool d'avoir un vrai batteur dessus. Et il se trouve que Jérôme était batteur. Et du coup, voilà. On a fait un EP qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Toulouse Moon, et qui est sorti sur Pantipop Records.
Ok, et le morceau que tu nous as amené
Il s'appelle Removal Blues, les blues du déménagement.
Et ça, c'est sur Canal Sud.
Ouais, alors il faut que je trouve.
C'est sur Canal Sud, donc quelques instants.
Dans quelques instants. Et comment, tu t'as dit le nom de ton groupe?
C'est Walk Home Drunk.
Ouais, tu l'as pas dit. C'est bien ce que je pensais.
C'est pour ça que tu trouvais pas.
Allez, c'est parti. So now I got free at last. I feel the sun in my eyes. I wanted more of the same. Got something more or less the same. No need for this open cage. My friends surround me anyway. I can't see anything but when something stays away. Even though everything's open, money closes it all off. I'm always down to the less. My longing says there's always more. It's always two against one. Well, hey man, what did you expect if I had nothing?
say. You'll just be very disappointed when it's all coming down.
Welcome Drunk sur Canal Sud, donc un des groupes d'un de nos invités, Daniel. Et à la batterie, il y a Jérôme. Tu me disais hors antenne, Léo, que Jérôme, il est aussi dans un groupe, dans un autre groupe.
C'est ça. Donc Jérôme, donc, qui donc, fait de la BD aux machines, Flumble Up et blablabla. Donc on a aussi un groupe, donc lui et moi. Donc ça, c'est pour les amateurs de black metal, s'il y en a qui nous écoutent. Parce que pour les autres, je ne sais pas si ça va forcément les botter.
Sur mais... Canal Sud, il peut y en avoir, des amateurs
voilà,
de black
metal. Voilà. En tout cas, pour les amateurs de metal, et plus précisément black metal, on a un groupe donc en français qui s'appelle Ergolae Somptator. Alors ça s'appelle ça, je vous dis juste comment ça s'écrit si jamais ça intéresse, mais c'est Ergholae et plus loin Somptator, à peu près comme ça se prononce, Somptator, et ça ne veut strictement rien dire, ne cherchez pas dans des livres de latin ou de grec. Et voilà, donc on a sorti deux CD déjà, qui sont notamment sortis en Ukraine, dans un petit label qui s'appelle Depressive Records. Depressive Illusion.
Alors ça, je veux dire, ça, c'est, fallait, je oui. suis content d'avoir entendu ça aujourd'hui. Quoi.
Voilà.
Allez, on revient à la bande dessinée, puisque c'est le thème. Avec nous, vous venez d'entendre Léo Louis Honoré, il a sorti chez aux éditions FLBLB, Fleu Bleu, Lisa de la NASA. On a aussi Daniel Selig, qui, aux mêmes éditions, a sorti cette année Un Kung Fu. Et on a Alexandre Giraudy, qui a sorti le premier tome des 3 jours qui ont changé le monde. Il y aura un tome par jour, le jour 2 et le jour 3. La couverture est prête, les couvertures sont prêtes, mais pas les pages internes apparemment. Mais ça doit sortir cette année.
Mais je travaille dur pour y arriver.
Ça, c'est parce que l'éditeur écoute qu'il nous dit ça. Puisqu'on parlait bande dessinée, Sandrine, qui fait le magazine en fin de semaine, elle nous a fait passer une information comme quoi les éditions Ego Comics, je sais pas si vous voyez Ego Comics, hein, et bien...
édition angoumoisine.
Ouais, tout petit éditeur, eh bien, c'est fini, il ouais. met la clé sous la porte.
Ouais.
En l'occurrence, le fondateur de cette maison d'édition, qui s'appelle Loïc Néou, n'arrivait plus à salarier depuis plusieurs années. Voilà, alors il a annoncé ça le 24 octobre dernier, il a envoyé un message un petit peu polémique, il a dit « il est temps d'officialiser les choses, voici 5 ans que je ne me salarie plus ». Et au passage, je ne remercie pas le Centre du Livre et de la Lecture en Poitou-Charentes. Et 2 ans que j'ai arrêté de publier des livres, je ne remercie plus Magélis Polimage d'Angoulême. Je déclare donc que les éditions Ego Comics cessent désormais leur activité. Alors ça a fait un peu polémique, le Centre du Livre a répondu, Magélis aussi, ils ont dit, on lui a donné comme bon, voilà. Bon, mais en tout cas, ça pose effectivement la question des difficultés hein, de vivre pour un petit éditeur. Alors quand même, pour je vous le dis, suite à cet arrêt définitif, ça y est, les livres de Ego Comics ne sont plus trouvables en librairie, mais ils sont disponibles à la vente sur internet jusqu'au 19 mars. Voilà, donc si vous voulez aller voir un petit peu et si vous voulez aller dénicher les derniers exemplaires de cet éditeur indépendant, on y retrouve des auteurs comme Vincent Vanoli, Frédéric Boilet, Fabrice No, Xavier Mussa, voilà, parmi beaucoup d'autres, les éditions Ego Comics. Ouais, c'est pas simple, je sais pas, ça vous évoque quelque chose, c'est pas simple du coup pour un petit éditeur, effectivement.
Non, mais en plus, je crois que Loïc Néou, il bossait quand même beaucoup tout seul et enfin, bosser tout seul, c'est vraiment pas évident.
Oui, là, on est loin du collectif.
Pour gérer toute une maison d'édition. Flubble Up, par exemple, ils sont quand même... ils sont 5 salariés. Enfin, il y en a surtout 2 qui sont très actifs. Mais je sais que déjà, c'est énormément de temps. Même parce qu'eux, ils sont aussi auteurs. Et ils doivent vraiment bien s'organiser pour avoir leur temps en tant qu'éditeur, leur temps en tant qu'auteur. Tout gérer, je sais que c'est pas évident. Alors, ce qui est amusant, c'est que les éditions Ego Comics, c'est... c'est eux qui ont édité le premier livre de Grégory Jarry, donc qui est un des fondateurs de Flubble Up.
L'As du Gigot.
Voilà.
L'As du Gigot. Ouais. Donc voilà, peut-être que vous pouvez encore le trouver sur Internet, le récupérer sur Internet jusqu'au 19 mars. Mais en même temps, tu disais, oui, il était tout seul. Alors effectivement, c'est pas facile, mais en même temps, il n'arrivait pas à se salarier tout seul. Alors ça n'allait pas être évident de ramener.
Ouais, bah, après, c'est qu'aussi, éditer des livres, ça coûte cher aussi. Et souvent, les subventions, elles partent vraiment là-dedans. Et si ça ne tourne pas forcément assez. Ça peut vite créer des difficultés, ouais.
Ouais, c'est ça. Et puis là, du coup, clairement, quand les subventions ont commencé à manquer, ou en tout cas, ils considèrent qu'elles ont commencé à manquer, il n'y avait pas de modèle économique derrière, il n'y avait pas d'autonomie, quoi, financière. Bon, voilà, donc les éditions, petite édition Ego Comics.
Ça pose une autre question, est-ce que vous arrivez à vous salarier chez les machines ?
Alors nous, c'est du bénévolat pur et dur, il en est de même pour les... En gros, tout ce qu'on... De toute façon, c'est une asso, mais et tout ce qu'on gagne on le réinvestit directement pour racheter des machines une fois qu'elles ont trop rouillé, ou alors pour racheter du papier, de l'encre et refaire d'autres bouquins. Donc on, et des fois on, enfin non oui enfin on, non nous on touche absolument que aucun sou. Et pareil pour les filles de Biscotto, par exemple, qui elles aussi sont dans ce genre de galère un peu. C'est, elles,
donc la revue pour enfants.
La revue pour enfants, ouais. Elles, d'ailleurs, le festival d'Angoulême ne savait pas ça, mais elles sont, tout à fait, elles sont complètement bénévoles et c'est pas du tout une entreprise. Elles sont que deux. Elles passent tout leur temps dessus. Elles bossent à côté pour avoir de l'argent. Mais sinon, elles, le journal sort grâce aux subventions, mais pas plus. Quoi, si...
ah ouais, d'accord. Donc, voilà. C'est leur passion, ouais. Leur, ouais, leur voilà. Plaisir. D'accord.
C'est beaucoup d'investissement et c'est vrai que c'est pas toujours évident.
Du coup, ça reste assez fragile, tout ça. Quoi.
Ouais, mais c'est les...
C'est très, très précaire, ouais.
C'est les subventions qui aident souvent, et c'est vrai que quand elles baissent ou quand tu en as plus... ou...
Et c'est vrai qu'actuellement, quels que soient les domaines, elles ont plutôt tendance à baisser, voire à disparaître. Oui. Puisqu'on est sur les choses un peu matérielles, quand vous avez signé là chez FLBLB, ouais. C'est quoi ? Il y a une avance, après, c'est, comment ça se passe ?
Bah, on a une avance droit...
Une avance sur droit d'auteur, ouais. C'est d'accord. Un contrat et on a une avance sur droit, alors c'est un peu compliqué, je vais essayer d'être clair. En gros, donc par exemple, moi, mon livre coûte 20 euros, j'ai 10% donc de droit d'auteur, ce qui est un maximum dans les contrats éditoriaux.
Ce qui fait éditions. 2 euros, hein, du coup, par album.
Voilà,
c'est
mais
pas
c'est 2 euros, en plus, c'est brut, donc c'est pas exactement 2 euros. Ça doit être 1,80€, une histoire comme ça. Donc sur chaque album vendu, je touche 1,80€. Et en gros, là, on a eu une avance sur droit, donc je ne sais pas s'il faut dire le prix, peut-être pas, donc, mais bon, bref, on ne le dit
pas. C'est pas obligatoire, c'est juste.
Mais cette avance sur droit, en gros, c'est, c'est une certaine somme qui suppose donc un certain nombre de ventes. C'est, on touche en avance donc, ces fameux 1,80€, par exemple, sur, donc, sur je sais pas, 700 BD vendus ou un truc comme ça. C'est pour que nous, on ait quand même, même un peu de sous, même si elles ne se vendent pas.
Et si elles ne se vendent pas, qu'est-ce qui se passe? Vous devez rembourser?
Non, alors, non
c'est
mais
garanti. Quoi.
Avant, il y avait ça, par contre.
Ah ouais,
ça avait fait scandale. C'était un scandale monumental. C'était donc... avant, les droits d'auteur, si la BD faisait un four complet, donc ouais, elle ne marchait pas, l'éditeur pouvait demander à l'auteur donc, de rembourser et même de racheter son stock de bouquins. Enfin, bon,
le trop perçu.
Voilà.
Comme
et
la CAF.
Du coup, je pense qu'après 2-3 suicides, ils se sont dit « Ah, c'est peut-être pas très sympa !» du coup, ouais, non, maintenant, ça, par contre, c'est établi. L'avance sur droit, on la garde, que ça marche ou que ça marche pas.
Alors, il est important de souligner qu'il y a quand même pas mal... Il y a des débuts un peu, je sais pas si on peut appeler ça des mouvements sociaux, mais en tout cas, il y a des protestations de plus en plus importantes maintenant chez les auteurs de bande dessinée. Ouais. Avant, quand on sortait 1, 2, 3 BD chez un éditeur reconnu, on va dire, eh ben, on était dans la place et on pouvait vivre de ça. C'est plus du tout si évident. On peut avoir sorti même des albums, je sais pas, chez Casterman, ou chez Dargo et puis ne pas derrière que ça enchaîne pas ou voilà et du coup c'est à chaque nouveau festival d'Angoulême là maintenant depuis un an ou deux on entend parler alors je sais pas si c'est un syndicat mais en tout cas de collectifs d'auteurs de BD qui essayent de défendre un peu leurs droits et qui disent que ça devient vraiment vraiment pas évident. Faut dire aussi qu'il y a énormément de sorties, les bandes dessinées ça se vend pas mal et du coup les sorties c'est foisonnant, c'est incroyable tout ce qui sort par semaine et même plusieurs fois, des fois plusieurs journées dans la semaine. Vous avez bon espoir quand même. Non, je voulais.
Bof.
Non, mais si, c'est vrai que là, ça va. Enfin, financièrement, on a peut-être pas bon espoir, mais en tout cas, au niveau. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sorties, mais ça n'a pas empêché nos BD de pas si mal marcher. Du coup, plutôt bon signe. Mais
Et vous avez entendu parler un petit peu là de ces regroupements d'auteurs là qui essaient de défendre un peu collectivement.
Il y a le syndicat des éditeurs alternatifs qui s'appelle donc le SEA. Dont fait partie Flubble Up, par exemple. Et donc, eux, oui, ils discutent de tout ce genre de choses. Notamment, récemment, il était question de payer ou non des auteurs pour les dédicaces, parce que c'est vrai que les auteurs, du coup, se déplacent et se retrouvent à faire des dédicaces pour plein de gens, et qu'une BD dédicacée, du coup, ça lui donne... C'est aussi de la valeur ajoutée. Bon, après, bon, je dis ça, je m'en fous, mais bref, ça veut dire que les auteurs sont quand même là toute la journée, ils sont normalement défrayés, mais bon, c'est quand même du boulot, et qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est pas rémunéré du tout... Donc là, il y avait eu des discussions là-dessus. Donc, est-ce qu'il faut payer ou non les auteurs pour venir derrière une table et dédicacer toute la journée Donc voilà, il y a ce genre de discussion. Comment faire pour que les auteurs aient de l'argent? Comment éviter les suicides?
Ouais, une situation pas simple à suivre, donc.
Après, c'est un métier formidable. Hein.
Moi, j'adore mon métier. Si jusqu'au suicide, c'est
super. Si vous êtes jeune, le black metal, c'est bien. Ça enlève toutes les histoires de suicide.
Hey, d'ailleurs, Jérôme, on l'a pas dit, mais... Le batteur du Ergulae Sumtator, il prépare aussi une BD chez Flubble Up.
Daniel l'avait dit. Ouais.
Ah, bah oui. Daniel l'avait dit, mais on n'avait pas dit que Daniel l'avait dit.
Tu fais bien de préciser.
Tu as une idée du titre? Non, pas encore.
Ah non.
Ok.
Si? Non.
Mais c'est pas sûr que ce soit le titre final, donc on ne dit rien.
Ok, bon, ben voilà, ça, c'était le petit chapitre social quand même, mais bon, c'est bien aussi de parler de la réalité des métiers, voilà, et notamment là, on parlait de ce métier d'auteur de bande dessinée, voilà. Puisqu'on était sur les BD, on avait envie avec Julien de vous donner une petite sélecta là, de bande dessinée, alors des choses sorties en 2016, récentes. Julien, qu'est-ce que t'avais à nous recommander aux auditrices, aux auditeurs?
J'avais trois BD, il y avait Cobane Calling qui est sorti, je sais pas si ça date de 2016 ou si c'est un peu plus ancien.
Bon, en tout cas c'est sorti récemment, je pense que c'est de 2016. Ouais.
Qui a été écrit par un auteur de BD italien qui s'appelle Zero Calcar. Et qui voilà,
Zero en fait, Calcare. C'est
Zero Calcare, si.
Donc la traduction est de 2016, la BD est peut-être un peu plus ancienne effectivement.
Ouais. Et du coup c'est l'histoire d'un auteur de BD, qui c'est assez autobiographique. Qui fréquente des squats alternatifs à Milan, je crois, si je me rappelle. Non, à Rome, pardon. À Rome, et qui de là trouve le moyen de se rendre au Kurdistan dans des délégations pour aller apporter du matériel médical et tout ça. Et du coup, il raconte ses voyages au Kurdistan, ce qu'il voit là-bas, les gens qu'il rencontre, et notamment les femmes des YPG ou YPJ, je ne me rappelle plus, je ne sais jamais lequel c'est, et les femmes combattantes là-bas qui lui expliquent un peu ce qu'est la révolution au Rojava et tout ça. Et vu par un citadin de Rome qui ne sort jamais de son quartier, donc c'est assez marrant.
À la fois, bon évidemment le sujet est très sérieux, il dit plein de choses, voilà. Mais tout ça avec un trait et un ton plutôt humoristique.
Plutôt humoristique, et c'est assez bien parce qu'il dit plein de choses, c'est très sérieux, c'est une situation hyper complexe hein, là-bas quand même, et à la fois c'est très clair, c'est très bien expliqué, c'est pas lourd, c'est pas chiant, non c'est une très bonne BD.
Donc Cobane Calling, c'est aux éditions Cambourakis, ouais, édition parisienne. T'avais aussi d'autres choses, je crois, à nous dire. Tu nous as dit trois. C'est quoi les...
Ouais, bah, je sais pas.
Allez, on alterne. Ok, d'accord. Ouais. Ben, moi, je voulais vous parler. Alors, la petite éditeur, édition de la Cerise, vous voyez ce que c'est?
Ouais.
Édition de la Cerise, c'est les éditions de Guillaume Trouillard.
Passé par Angoulême, celui-là aussi.
Ah ouais, superbe dessinateur de BD. Ouais. Guillaume Trouillard, il avait sorti une BD que j'adore qui s'appelle La saison des flèches,
ouais,
il y a quelques années. Ouais. Ça, c'est absolument magnifique. Et il vient de sortir le tome 2 de La fille maudite du capitaine pirate. Le premier tome avait déjà pas mal marché. C'est une bande dessinée américaine, donc c'est également une traduction. L'auteur c'est Jeremy Bastian. Alors là on est loin du dessin de la ligne claire et du dessin limpide, on va dire, de nos invités. Là on est dans le détail, l'ornementation à foison, un univers totalement fantasmagorique. Ça je vous recommande très chaleureusement, c'est dans des mondes imaginaires, c'est vraiment un travail sur l'imagination et sur les mondes imaginaires. Voilà, La fille maudite du capitaine pirate, tome 1 et 2, mais je crois que ce n'est pas fini, il y aura encore un tome 3, etc. En tout cas le tome 2 vient de sortir, c'est un très très beau, alors c'est quand même, là on n'est plus, hein, on n'est pas dans les, c'est quand même 20 ou 25 euros, mais c'est une belle bande dessinée, c'est quelque chose qu'on peut offrir, quoi, sans problème, quoi. À toi, Julien.
Ouais, c'était L'aile brisée de Antonio Altariba, qui est édité chez Delcourt, je crois.
Ouais, je crois que c'est ça, ouais.
Ouais, et alors là, c'est l'histoire de la mère de cet auteur. En fait, il avait écrit une première BD qui s'appelait L'art de voler.
Qui avait cartonné.
C'est un auteur espagnol, et où il parlait beaucoup de son père. Et à une présentation de son bouquin, il y a une lectrice qui lui a dit « Mais, et votre mère ?» Et puis il a un peu botté en touche et il y a réfléchi et en fait il s'est rendu compte que il fallait peut-être qu'il fasse quelque chose sur sa mère qui n'était pas aussi militante politique que pouvait l'être son père et qui avait une vie plus en coulisses. Mais justement ça parle en fait de l'histoire d'une femme sous Franco en Espagne qui est au service de tout le monde à peu près. Donc au service de son père, de ses frères, beaucoup au service des hommes hein, forcément. Son père, de ses frères, d'un... général franquiste, de son mari, des bonnes sœurs chez qui elle se retrouve à la fin de sa vie. Enfin, voilà, l'histoire d'une...
Et si vous avez lu L'art de voler, c'est vrai que ce personnage-là était présenté sous un jour, faut bien le dire, peu attrayant. Hein, c'était un peu la bigote qui, grosso modo, venait emmerder le père. Et c'est vrai que c'est pas mal, du coup, d'avoir une autre vision du personnage. Quoi.
Bah, c'est une vision de ce personnage qui, d'un coup, devient quelqu'un d'assez fort et courageux, mais tout ça dans le silence et derrière, quoi, comme le sont beaucoup de femmes, finalement. en fait. Et dans cette société machiste et religieuse qu'est l'Espagne de Franco aussi.
Bien sûr, il y a un contexte hein, particulier. Ouais. Allez, puisqu'on parle de femmes et de femmes dans la bande dessinée, le scénariste, alors lui c'est un scénariste à succès, hein, Lupano, bon, qui fait des choses de grande qualité et qui vient de connaître un carton assez, assez important là, avec Les Vieux Fourneaux. Lupano a démarré une série chez Vendouest, pardon, pas chez Delcourt, donc là on n'est plus hein, chez les éditeurs indépendants, qui s'appelle Communard. Ce sont des histoires indépendantes à chaque fois et qui retracent à chaque fois des histoires de femmes au sein de la commune.
Avec des super dessins.
Alors les dessinateurs sont différents à chaque fois. Ouais. Le dernier tome qui est sorti cette année, qui moi je trouve est vraiment un des meilleurs, s'appelle « Nous ne dirons rien de leurs femelles ». À la plume, c'est Xavier Fourquemin. C'est le tome 3, mais vous pouvez aller indifféremment... Il y a aussi l'aristocrate fantôme.
Je m'en rappelle plus. Mais
en tout cas, voilà, les trois tomes, déjà trois tomes, et puis série à suivre, Communard aux éditions Vendouest.
Qui sont indépendants les uns des autres.
On retrouve à chaque fois des petites références aux autres albums, mais les histoires se lisent totalement indépendamment les unes des autres.
Et alors moi, j'avais une BD là que j'ai lue tout récemment qui s'appelle Shangri-La, qui est une BD de science-fiction.
Ouais, magnifique.
Ça se passe dans un monde, c'est très très belle. Ça se passe dans le futur et en fait la Terre n'est plus vivable. Et du coup,
c'est de la science-fiction, ça n'arrivera jamais.
Ouais. Il reste une poignée d'humains qui habitent dans une station orbitale autour de la Terre et qui attend que les scientifiques puissent terraformer un satellite de Titan pour aller y vivre. Et en fait, ça raconte cette histoire cette station orbitale, tout est détenu et tout est géré par une seule compagnie. Donc c'est le triomphe de l'entreprise Total, quoi, qui vend des gadgets à tout le monde pour surtout ne pas les faire réfléchir et où tout le monde est serré dans cette boîte
mais
à sardines.
Mais où va-t-il chercher tout ça? C'est incroyable.
Ouais.
Quelle imagination.
Et voilà. Et du coup, ça part en sucette. Forcément, il y a des révoltes et tout ça. Et c'est une chouette peinture de notre monde. Mais en SF.
Et ça, c'est aux éditions Ankama.
Ouais.
Qu'on salue. Ils font alors eux, sur l'objet BD, à chaque fois, ils font quand même un travail sur chaque objet, travail d'éditeur étonnant aussi. Hein,
ouais, c'est un super bouquin.
Ils font plein de formats différents, etc. Bon, voilà, on les connaît surtout parce qu'il y a chez eux le label 619, hein, qui est le label de Run, hein, l'auteur de Mutafukaz. Ça a bien cartonné, puis qui sort les Doggy Bags, etc. Mais même en dehors de ça, ils font un sacré boulot.
Et là, l'auteur, c'est Mathieu Bablé. Voilà.
Shangri-La. Allez, allez, moi j'en ai encore une. Alors là, pareil, on n'est plus chez les éditeurs indépendants, c'est Gallimard dans la collection Bayou, mais qui est une chouette collection par ailleurs, hein, la collection qui sortait notamment les Aya de Yopungun, pour ceux qui connaissent. Et là, c'est L'année du lièvre. Le troisième et dernier tome est paru en juin de 2016. C'est une BD signée Tian. Auteur français mais d'origine cambodgienne, il raconte l'histoire de sa famille. Alors sa famille, famille bourgeoise cambodgienne, mais qui va, comme tout le peuple cambodgien, subir l'arrivée au pouvoir des Khmer Rouges. Et donc ça raconte le destin d'une famille et des gens autour de la famille sous les Khmer Rouges. C'est en trois volumes, L'année du lièvre aux éditions Gallimard, collection Bayou. Voilà.
Et ben voilà.
Et ben écoutez, voilà. Et puis moi j'y ajoute un western un peu atypique aux éditions Casterman, L'odeur des garçons affamés. Ça c'est très très chouette aussi. C'est dessiné par Frédéric Peters et scénarisé par Lou Weifang. C'est aux éditions Casterman, L'odeur des garçons affamés. Si vous aimez le western mais que vous avez envie de choses un peu différentes. Peut-être que vous aviez vous aussi des choses à nous dire. Alors pas forcément des bandes dessinées de 2016, mais des choses que vous aimez, que vous avez envie de défendre un peu à l'antenne.
Il y a une asso à Toulouse assez récente de deux anciennes des Beaux-Arts qui ont été diplômées l'an dernier, qui s'appellent Manon Rope et Zelda Pressigou. Et elles ont fait une petite asso qui s'appelle un petit collectif de micro-édition aussi, donc qui s'appelle La Perche Carrée. Et en gros, elles font pas mal de fanzines où elles racontent leurs balades et leurs observations, qu'elles puissent avoir que ce soit genre en ville ou en se baladant dans d'autres pays, et elles font des fanzines là-dessus sur tout ce qu'elles observent, ce qui les marque. Et donc il y a beaucoup de il y a un peu de bande dessinée, un peu de collage, un peu de beaucoup de textes, enfin il y a de tout en fait, et c'est assez chouette. Donc c'est une asso toulousaine,
La Perche Carrée.
Vous pourrez la rencontrer ce soir à l'IPN a priori.
Ouais, ah, exact. D'accord.
Donc à l'IPN, je me souviens plus l'adresse, mais c'est derrière, pas loin du canal.
Rue des Jumeaux.
Rue des Jumeaux, voilà.
Rue des Jumeaux, ouais.
L'IPN, d'accord.
Et vendredi soir, je crois.
Ouais.
Qu'est-ce qu'elles viennent ? Elles viennent tenir une table ? Qu'est-ce qu'elles...
Alors en fait, c'est une expo des post-diplômés des Beaux-Arts. Et du coup, ils organisent des soirées un peu dans le mois. Et ce soir, c'est à l'IPN. Il y a une autre soirée à l'IPN le 24. Et il y a aussi des soirées à
La Mèche,
exactement. Et aussi...
Maison, non.
Il nous manque. En tout cas, donc ce soir, ouais. la perche carrée, on pourra les retrouver du coup dans le cadre, voilà, de cette soirée à l'IPN. Ouais. D'accord.
Avec leur tout nouveau fanzine qui vient de sortir.
Et qui s'appelle Les Perches Carrées aussi, le fanzine ?
Non. Celui-là, il s'appelle Hyperdrone. C'est quelque chose. Elles sont allées se promener autour de l'hippodrome de la Sépière. C'est au sud de. N'importe quoi. À l'ouest de Toulouse, vers les arènes. Et voilà. Donc elles racontent leur balade autour de cet hippodrome.
Très bien, les perches carrées, on ira voir ça. Est-ce qu'il y avait d'autres choses ? Non ?
Bon, c'est bon. C'est bon. Non, c'est bon.
Écoutez, je crois qu'on on en a fini du coup avec ce magazine spécial BD. Alors, je rappelle donc nos invités, Léo, Louis, Honoré. Alors, vous avez tous un blogspot, hein, donc ouais. Vous pouvez aller déjà sur Internet voir un petit peu le travail des uns et des autres.
Le mien est en chantier, je précise.
Ah, d'accord. Alors, grosso modo, c'est facile. C'est le nom des invités, tout attaché, sans majuscule, sans accent, évidemment, .blogspot.fr. Il n'y a que Daniel qui a un peu triché, il a mis Dan. Mais voilà, donc Léo, Louis Honoré, hein, leolouishonoré.blogspot.fr si vous voulez aller voir. Tu as sorti donc Lisa de la NASA cette année, Alexandre Géraudy, Les Trois Jours qui ont changé le monde, premier tome déjà paru, et les deux autres tomes qui seront en fait les deux autres journées, hein, ouais. Un tome par journée à venir courant 2007. Pareil, Alex, donc il n'y a pas ton nom en entier, alexgéraudy.blogspot.fr, mais c'est en chantier, mais enfin quand même on peut voir quelques-uns de tes boulots. Et puis Daniel Selig, tu as sorti Un Kung Fu, et ton site web, c'est ton blog, c'est Dan Selig, selig.blogspot.fr. Et ces trois ouvrages, il faut le dire, c'est aux éditions Flou Blou Blou, FLBLB. Et le collectif, c'est Les Machines, pareil, hein, édition Les Machines, micro édition Les Machines, et pareil, ça se trouve sur Blogspot. Voilà, bah merci d'être venu.
Merci à vous de nous avoir invités.
Ouais. On va terminer cette longue session bande dessinée avec un peu de son, parce qu'il se trouve que le hasard fait bien les choses. Ce dimanche 15 janvier, à la médiathèque José Cabanis, il y aura un concert du groupe Tango Motan, qui s'appelait avant Tango Carbone, donc un groupe de tango, on l'aura compris, et dessinera en direct en même temps Jules Stromboni. Alors Jules Stromboni, dessinateur de bande dessinée, qui a habité à Toulouse, hein, au Pavillon Sauvage pendant un petit moment, maintenant je crois qu'il est sur Paris, mais il a exposé depuis le mois de décembre, là, justement à la médiathèque, des planches de son album à venir, qui s'appelle Matzerou. C'est un huis clos fantastique et tragique dans un village corse au 19e siècle, alors voilà, ça c'est le pitch, mais il a fait des très belles planches. Cet album, il est à paraître en mars chez Casterman, mais vous pouvez aller déjà découvrir l'univers voilà, dans les salles d'exposition. C'est au rez-de-chaussée, hein, tout en bas, même pas au rez-de-chaussée, c'est au sous-sol voilà, de la médiathèque Cabanis, et c'est jusqu'à dimanche. Et dimanche, donc, pour clôturer cette exposition, il y aura également donc ce concert dessiné Tango Motan au son et Jules Stromboni au dessin. On s'écoute un peu de tango, du coup, c'est le mag sur Canal Sud.
Bah, y a rien sur ton fichier.
Ah, le tango, ça démarre doucement. Thank you. Tango Motan qui seront en concert à la médiathèque Cabanis. Ce sera à 16h ce dimanche et donc ce sera un concert dessiné. Les dessins seront de Jules Stromboni et l'exposition de Jules Stromboni autour de son album de BD à sortir, album qui sortira chez Casterman le 22 mars, album qui s'appelle Mad Zero. Cette exposition, elle est pareille, elle est jusqu'à ce dimanche. Donc foncez-y, c'est assez joli. Puis il a fait ça un peu comme un musée imaginaire, enfin c'est pas mal. Voilà, je crois qu'on arrive au bout de ce magazine.
On se fait faire un tour en Amérique du Sud ou...
Ah, on peut se faire un tour en Amérique du Sud, oui, parce qu'à partir de lundi prochain, dans le magazine, on se mettra aux couleurs un peu uruguayennes, grâce à Adrien qui est en voyage en Uruguay et qui va nous envoyer toutes les semaines, tous les lundis, là, pendant quelques semaines, jusqu'en février, courant février, une chronique uruguayenne. Voilà, donc si vous ne connaissez pas trop ce petit pays, enfin petit à l'échelle des mastodontes qui l'entourent, hein, il est coincé entre l'Argentine et le Brésil, si vous ne connaissez pas trop ce petit pays d'Amérique du Sud, eh bien vous saurez tout en écoutant le mag dès lundi prochain. Mais nous, on revient quand même dès demain. Hein.
Ouais, nous, on revient demain.
Le mag, c'est tous les jours.
Et demain, il y a Radiohead aussi.
Ah ouais, il y a Radiohead.
À 13h. Et cet après-midi, on n'aura pas de rediff de Route 66.
D'accord.
Donc là, on a de la musique jusqu'à 16h, en gros. 16h, vivre avec le sida, jusqu'à 17h. Et 17h, Manu, comme tous les mardis, depuis si longtemps, vient pour faire le Dixie Bob Show.
30e année en cours, on l'a dit, hein, le Dixie Bob Show. Ouais. Et donc, ce qu'on s'écoute, là, c'est un groupe emblématique de la Plena, ou la Plenia, non, je crois que c'est la Plena. C'est la version uruguayenne, en fait, de la cumbia. Donc, c'est la musique populaire. Le morceau s'appelle Baila Dora, et le groupe, c'est Montejojo.
Et on se quitte là-dessus.
Ouais, salut à tous.
Salut.